Radio Spirale.
No more, my love.
Fasciné par son expérience de bibliothécaire dans différentes prisons aux États-Unis, Jean Charbonneau nous fait part, dans ce document, non seulement de ce qu'il y a vu, entendu et vécu, mais aussi d'une expérience qui est en train de nourrir le livre qu'il projette d'écrire. Une bibliothèque dans une prison, cette image appelle le symbole. Lieu intermédiaire entre le dedans et le dehors, lieu limité ouvrant sur l'illimité, la bibliothèque est emblématique des rapports complexes entre l'expérience humaine qui est, par nature, finie, et l'expérience infinie de la parole, de la mémoire, de la littérature, bref, de la fascination.
Une des prisons où j'ai travaillé est le Maryland House of Correction. Dans le milieu, ce pénitencier porte le sobriquet charmant de « The Cut ». Pourquoi? Rien de bien subtil. On appelle cette prison « le Cut » à cause de l'incidence de violence derrière ses murs. Un détenu m'a raconté que toujours il avait un shank sur lui du temps qu'il était incarcéré au Cut. Question de protection. Shank, dans le langage des détenus américains, veut dire « couteau ». Ce mot « cut », en mettant bien l'emphase sur le « t », est presque une onomatopée, le son que produit une porte d'acier qui se ferme dans un bloc cellulaire. « Cut ». Malgré cela, lors de ma première journée au Cut, je me sens en sécurité dans la bibliothèque. Bizarrement, mon estomac n'est pas noué. Ma gorge n'est pas serrée, ma bouche n'est pas sèche et la paume de mes mains n'est pas moite. Pas de tremblement, pas de nausée, pas de palpitations. Je me sens en sécurité parce que j'ai l'impression que les détenus ne me voient pas comme faisant partie de l'appareil oppressif qu'est, à leurs yeux, le Division of Correction. Contrairement aux gardiens systématiquement détestés, le bibliothécaire n'a rien à voir avec la tyrannie de la prison. Au contraire, il offre des services qui sont très appréciés par la population carcérale. En plus, le bibliothécaire ne porte pas l'uniforme noir des gardiens, il n'a pas un gourdin ou du gaz poivre à sa ceinture, il n'a aucune incidence sur la longueur de la sentence des détenus. Je ne suis pas considéré comme un ennemi, pas de raison donc de se sentir en danger. Pourtant, c'est une palette d'individus plutôt singuliers qui se trouve là. Plusieurs sont d'avis que la population carcérale est un ramassis de violeurs violents, de délinquants débiles, d'accros chroniques, de chacals, de maniaques, de monstres, d'énergumènes sortis tout droit de l'enfer. Cela est vrai, mais c'est également faux. J'ai été en contact durant mes 6 ans derrière les barreaux avec des êtres absolument immondes, mais aussi un bon nombre d'individus particulièrement intéressants, intelligents et instruits, des types au vécu irréel avec un bagage d'expérience à peine croyable. Je suis né à Montréal en 1961. Je suis resté à Montréal jusqu'à 92. J'avais une copine qui a déménagé à Boston. Une copine qui est devenue ma femme, qui est devenue mon ex. Alors moi, je l'ai suivi à Boston. J'ai passé 19 ans aux États-Unis. Préalablement, j'ai fait un bac en histoire. Et puis, j'ai fait une maîtrise en bibliothéconomie à McGill. Alors, j'étais bibliothécaire avant de partir aux États-Unis, où j'ai travaillé dans un hôpital, l'hôpital général juif. Ensuite, j'ai travaillé pour une compagnie de produits pharmaceutiques, chose que j'aimais pas. Le monde corporatif avec le costume et la cravate, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Et puis donc, j'ai quitté Montréal à ce moment-là pour me rendre à Boston, où j'ai travaillé à l'école de médecine de Harvard, encore dans le milieu médical. Et puis ensuite, j'ai laissé mon travail et puis je suis allé faire moi qui a toujours voulu être écrivain. La raison pour laquelle je suis devenu bibliothécaire, c'est que j'étais toujours en amour des livres et puis je savais pas trop quoi faire dans la vie. Mais je me suis dit qu'une job où je serais entouré de livres, ça serait pas désastreux. Alors c'est pourquoi je suis devenu bibliothécaire. Et puis donc, bibliothécaire aussi aux États-Unis, mais je décide de quitter pour faire une maîtrise en création littéraire, ce qui m'a amené au Mississippi, dans le sud des États-Unis, où j'ai fait une année là en création littéraire et en littérature. Ensuite, je suis revenu à Boston pour finir ma maîtrise à l'Université de Boston. Adèle, ma femme, mon ex, a obtenu un emploi à Détroit. Alors, je suis allé à Détroit avec elle, où j'ai travaillé dans un hôpital. En même temps, j'écrivais des critiques littéraires pour des journaux américains. J'ai aussi écrit un premier roman qui a fini dans le fond de mon tiroir, qui était l'endroit approprié pour ce roman-là, parce que c'était pas terrible. Ensuite, nous sommes déménagés à Baltimore. Encore une fois, à cause de la carrière de ma femme qui était en génétique. Et puis donc, une fois là, moi, j'en avais assez de travailler comme bibliothécaire. Ça me tentait plus de faire ça, surtout dans le milieu médical. Et puis, Adèle me dit, restons à la maison, écris tes trucs, et puis la vie est belle. Mais un dimanche matin, alors que je lisais le Baltimore Sun, qui est le journal local, j'ai vu qu'il y avait une offre d'emploi comme correctional librarian, donc bibliothécaire dans le monde de la prison. Immédiatement, j'ai été intrigué, et puis immédiatement, j'ai mis à jour mon CV que j'ai envoyé à ma future patronne, puis j'ai obtenu le poste. Moi, d'emblée, je me disais que c'était pour être quelque chose d'extraordinairement intéressant, parce que un petit cul de Montréal qui travaille dans le milieu carcéral américain, c'est pas banal. Et puis je me disais que en tant qu'écrivain, en tant que personne, que c'était pour m'enrichir énormément en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'écrivain.
Norman Mailer, Le Chant du Bourreau, 1979. Lettre de Gary Gilmore, personnage principal du livre. 11 octobre. J'ai écrit à ma mère vendredi, après qu'elle soit venue me voir ici. Jamais je n'ai parlé à ma mère comme je lui ai parlé voilà deux jours. Bien que les sentiments qui existent entre ma mère et moi soient très profonds, ils se sont toujours exprimés de façon superficielle. Bref, j'ai parlé à ma mère de l'amour que toi et moi avons l'un pour l'autre. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que je ne voulais pas expliquer au juste ce qui s'était passé, qui a eu pour résultat la situation où je suis. Je lui ai dit qu'à la suite de toute une vie de solitude et de frustration, j'ai laissé développer de mauvaises habitudes de faiblesse qui ont fait de moi quelqu'un de néfaste, que je n'aime pas être mauvais et que je désire ne plus être mauvais. Oh, Nicole, il arrive un moment où on doit avoir le courage de ses convictions. Tu sais que j'ai passé à peu près 18 ans de ma vie sur 35 sous les verrous. J'en ai détesté chaque instant, mais je n'ai jamais versé dans les larmes là-dessus. Je ne le ferai jamais, mais j'en ai assez, Nicole. Je déteste cette routine. Je déteste le bruit. Je déteste les gardiens. Je déteste le désespoir que cela me fait éprouver. Tout et n'importe quoi que je fasse, c'est juste pour passer le temps. La prison m'affecte plus que la plupart des gens. Ça me vide. Chaque fois qu'on m'a bouclé, je crois que j'ai éprouvé un tel désespoir que je me suis laissé couler à pic, et que, ma foi, ça a eu pour résultat de me faire passer plus de temps en prison que je ne l'aurais sans doute dû. Ça veut dire quelque chose.
And play, and he have me. Me glad, no more.
La première journée au travail, évidemment, que c'était inoubliable parce que je pénétrais un univers que je connaissais pas. Moi, je travaillais dans une prison qui fait partie d'un espèce de grand complexe au sud de Baltimore, où c'est dans le fond d'une vallée. Alors, on pénètre dans ce territoire-là, en haut d'une côte, puis en bas de cette côte-là, il y a une grande vallée où on voit toutes les prisons. Il y en a 5 ou 6 entourées des miradors et tout ça. C'est extrêmement impressionnant parce qu'on a une vue d'ensemble. C'est quasiment comme dans un film où la prise de vue est presque d'un hélicoptère en regardant en bas. En voyant ça, j'ai eu une espèce de double pensée. À quelque part, Ça semblait presque, je viens d'évoquer le fait que c'était comme une prise de vue dans un film, puis effectivement, ça ressemblait un peu à un décor de film. Alors, il y avait un côté un petit peu irréel à l'affaire, mais en même temps, je me disais, bon, dans quelques minutes, je vais être dans la prison de Cotte, qui est une des prisons les plus mal famées de l'État, sinon du pays. Alors, il y avait une espèce de dichotomie là entre ce qui était réel et ce qui l'était pas. Ça n'a pas été long qu'effectivement le réel m'a rattrapé. Dès qu'on rentre dans la prison, la senteur de la prison te frappe, les bruits de la prison. Aussi, moi, en marchant, pour se rendre à la bibliothèque, il faut traverser la prison. Donc, ça, c'était les premiers contacts visuels avec les détenus se sont faits là. En fait, le premier contact visuel avec les détenus, je l'ai vu à l'extérieur de la prison, dans la cour intérieure, où dans la cour intérieure qui est entourée de clôtures, il y a une autre cour qui est entourée d'autres clôtures où les gars font de l'exercice. Alors, je voyais les détenus qui marchaient en rond, qui faisaient le tour de cette espèce de d'enclos-là. Et puis, ça m'a apparu un petit peu comme une espèce de représentation de la prison où tu marches en rond pour aller nulle part. Espèce de mythe de Sisyphe à l'intérieur des murs. Ça m'a frappé immédiatement. Ensuite, à l'intérieur de la prison, là, j'ai eu les contacts presque directs avec les prisonniers, en ce sens que les gars étaient à deux pieds de moi. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs prisons, et puis dépendamment de ces prisons-là, les bibliothèques sont plus ou moins grandes, mais dans tous les cas, les bibliothèques en prison, c'est comme deux prisons en une. Il y a une section de la prison où on trouve des ordinateurs avec des bandes de données et des livres qui portent sur le droit. Il y a énormément de détenus qui viennent à la bibliothèque pour travailler sur leur propre défense, leur propre cas, dans le but de changer leur sentence parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été bien représentés et puis ils font le travail eux-mêmes pour essayer de changer leur sort. La loi américaine, je suis pas sûr si c'est américain, mais du moins dans l'État du Maryland, les prisonniers ont droit d'avoir accès à cette information-là. Et donc, dans la bibliothèque, on doit avoir les bandes de données et les travaux de référence et choses comme ça. L'autre partie, c'est finalement comme une bibliothèque publique. Les gars viennent à la bibliothèque pour emprunter des livres, pour lire leurs journaux, des magazines. On avait aussi des ordinateurs avec des toutes sortes de programmes comme les encyclopédies, des choses comme ça. Moi, mon rôle, j'étais bibliothécaire, je supervisais tout ça, les achats, l'administration. Je faisais la référence. Les détenus n'ont pas accès à l'Internet pour des raisons de sécurité, alors que moi, j'avais accès à l'Internet, donc parfois, je faisais des recherches pour eux. Les autres employés de la bibliothèque étaient des détenus. C'était la routine ordinaire d'une bibliothèque. Il y avait un détenu qui était là pour aider les gens à faire leur recherche légale. J'avais un autre qui était au comptoir du prêt, un autre qui s'occupait des magazines. Alors moi, je m'occupais de superviser tout ça. Le côté légal est très important parce qu'effectivement, les détenus qui viennent, souvent c'est pour... L'information qu'ils obtiennent va avoir un impact majeur sur leur vie. La raison pour laquelle ils viennent faire ça, c'est qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été représentés de façon adéquate. Souvent, c'est des gens qui n'avaient pas d'argent pour embaucher un avocat. Alors, ils sont fait représenter par un avocat qui leur a été donné par la cour. Mais ces gens-là, malheureusement, sont extraordinairement occupés. Le détenu, l'individu se ramasse avec une peine de 25 ans et puis il a la conviction que ça devrait pas être le cas. Alors nous, on leur donnait accès à des bandes de données C'était surtout des banques où c'était des cas similaires aux leurs. Bon, moi, j'ai fait tel coup et puis j'ai eu sentence. Je peux aller voir s'il n'y a pas eu des équivalences, une jurisprudence où ma peine de 25 ans, finalement, il y en a quelqu'un d'autre qui n'a eu que 10 ans. Alors moi, on peut ensuite écrire à la cour. On leur donnait l'information comment écrire à la cour, quelle cour contacter, la cour d'appel, la cour de la, bon, il y avait une multitude de possibilités. Et puis moi, je m'y connais pas beaucoup, c'est pour ça que j'avais des commis, souvent des commis qui avaient été en prison depuis longtemps, qui avaient fait tout ce travail-là pour eux. Ça avait marché plus ou moins, mais là maintenant, ils pouvaient assister les détenus à faire leur travail.
Putu Oka Sukanta, dans mon cachot, 1966-1976, Indonésie. Je suis comme l'eau, qui se calme après la secousse, qui se défait de sa mousse, laissant choir ses sédiments, tamisant ses impuretés dans le cristal du matin. Je suis comme l'eau, qui s'apaise après la secousse. Plonge ton regard dans cette clarté nimbée de brume. La silhouette qui s'y dessine n'est plus celle d'un inconnu. Je suis comme l'eau qui s'apaise après la secousse et l'ombre qui se retire et la lumière qui de partout éclate ne sont plus pour un inconnu.
No more, my Lord, Lord, I'll never turn back. No more.
Avant de commencer ma carrière comme bibliothécaire dans le milieu carcéral, vraiment, je savais pas à quoi m'attendre. J'en savais pas plus que le commun des mortels, étant donné que j'avais jamais mis les pieds dans une prison. Tout ce que je connaissais des prisons, c'était les trucs qu'on voit dans les films et dans les romans. Et tout ce que je savais, c'est que c'était pour être complètement différent de tout ce que j'avais vécu avant. Puis ce qui m'apparaissait intéressant de prime abord, c'est l'espèce de paradoxe d'une bibliothèque dans une prison. Une bibliothèque, par définition, c'est une institution qui ouvre les horizons des gens par l'entremise de la documentation et des livres. Alors que dans une prison, il n'y en a pas d'horizon. Tout ce qu'il y a, c'est des murs de briques, des clôtures, une espèce d'organisation oppressive. Bon, pour les besoins de la cause, je sais pas de dire que les prisons c'est bien ou c'est pas bien, avec plein de restrictions. Alors c'est ça, c'est comme si on mettait deux éléments qui devaient pas, qui a priori devraient pas être ensemble. Et pourtant c'est ça, je pense que la bibliothèque est une oasis dans la prison. Ça a un esprit, il y a aussi une atmosphère beaucoup plus calme qu'ailleurs. Peut-être que la présence des livres aide. Puis ça, je m'attendais pas à ça. Ça, je m'attendais pas à voir cette espèce de transformation des gens alors qu'ils rentraient dans la bibliothèque où tout devenait calme. C'était une bibliothèque.
Jean Genet, Miracle de la Rose. Le ciel des religions est un plafond. Il finit le monde. Il est plafond et écran, puisqu'en s'échappant de mon cœur, les aspirations ne se perdent pas. Elles se révèlent contre le ciel. Et moi, croyant m'être perdu, je me retrouve en elle ou dans l'image d'elle projetée au plafond. Par horreur de l'infini, les religions nous emprisonnent dans un univers aussi limité que l'univers de la prison, mais aussi illimité, car notre désir en elle éclaire des perspectives aussi soudaines, découvre des jardins aussi frais, des personnages aussi monstrueux, des déserts, des fontaines, et notre amour plus ardent, tirant du cœur plus de richesse, les projette sur les épaisses murailles, et quelquefois ce cœur est si minutieusement exploré qu'une chambre secrète se déchire, laisse un rayon passer sur la porte d'une cellule, se poser et montrer Dieu.
Turn back no more. Man, I am looking can find. Can you tell?
L'aspect favori de ma job, c'était les contacts un à un que j'avais avec des détenus lorsqu'on parlait de livres. Leur conseiller des lectures, essayer d'ouvrir leurs horizons un petit peu. Et puis eux, ils me disaient ce qu'ils aimaient. J'ai découvert certaines choses, des auteurs que j'avais pas connus. La bibliothèque, c'est un petit peu comme une bibliothèque publique. Alors, ils lisaient des ouvrages en histoire, des biographies de grands personnages historiques et populaires, la psychologie. Il y avait beaucoup de... 80% de la population carcérale, moi où j'étais, c'était des Noirs américains. Donc, on essayait... Bon, j'avais pas beaucoup d'argent pour acheter des livres, malheureusement, mais souvent, j'essayais d'acheter des auteurs Noirs américains, des livres d'histoire sur les Noirs, des choses comme ça, parce que faut rencontrer les intérêts de nos lecteurs. Bon, ce qu'on lisait aussi, ce qu'on appelle le true crime, les histoires de crimes vrais, les détenus qui étaient derrière les barreaux pour avoir commis toutes sortes de trucs plus ou moins atroces, ils aimaient lire des histoires de type qui avaient fait un peu la même chose, qui avaient le même cheminement. Alors, ça devait les reconnecter peut-être avec leur vie antérieure. Les trucs sur les tueurs en Syrie, ça, c'était... J'aurais pu avoir la bibliothèque remplie de ces livres-là, puis ça, il aurait été content. Bon, il lisait aussi des thrillers, les choses, les best-sellers. Harry Potter, c'était encore très populaire à ce moment-là. Stephen King... Des classiques aussi, Moby Dick, les classiques russes, Tolstoï. C'était vraiment, j'avais un éventail assez grand de lecteurs, ce qui était très intéressant. Puis encore une fois, j'avais plein de bonnes discussions avec eux. Un autre genre qui était particulièrement populaire, c'était le urban fiction. Le urban fiction, qui est un genre américain, qui est écrit surtout par des écrivains noirs. Et puis, les histoires se déroulent dans les rues des centres urbains américains, dans les ghettos. Souvent, les personnages principaux, ce sont des vendeurs de drogue, des prostituées, des pimps. Alors, encore une fois, ça les ramène un petit peu à leur vie antérieure. Bon, il y a plusieurs auteurs, Iceberg Slim, qui est un des plus populaires, une femme qui s'appelle Zane, et puis il y a aussi... le parrain du urban fiction, Donald Goines.
Justice blanche, misère noire, 1973. En fumant cigarette sur cigarette, Chester observa en silence les hommes qui se sentaient trop honteux pour aller aux toilettes communes en plein jour. Ils se levaient tous, les uns après les autres, et se faufilaient vers la cuvette. Chester se rend lui-même dans la semi-pénombre. Il ne faisait jamais vraiment noir dans la cellule, mais on éteignait quand même quelques lampes. Chester ne dormait toujours pas lorsqu'il eut la relève des matons. Il écouta le nouveau surveillant faire sa ronde. On entendait bien ses pas dans les allées du fond. Chester en perçut le bruit 3 minutes avant que l'homme n'apparaisse en personne devant leur cellule et qu'il projette le faisceau de sa torche à l'intérieur pour voir s'il se passait quelque chose. Pas étonnant que ces connards n'arrivent jamais à attraper de gens en train de s'enculer, se dit Chester, pour ce qui devait être la millième fois depuis sa mise en cabane. En allumant une autre clope, il regarda autour de lui les silhouettes endormies. Il y en avait qui dormaient sur des matelas sales et d'autres qui s'étaient glissés sous des couvertures abjectes pour se préserver de la fraîcheur du matin. Par terre, les cafards grouillaient, apparemment en grand nombre, cherchant les miettes que les gens jetaient partout avec une indifférence parfaite. Il vit ensuite un homme qui se réveillait en jurant et qui tapait sur ses couvertures. Une petite souris s'en échappa et s'enfuit à travers les barreaux. L'homme continua à lancer des jurons à haute voix jusqu'à ce qu'une autre forme endormie lui crie de la fermer. Chester se roula dans sa couverture pour tenter de trouver le réconfort temporaire du sommeil.
Donald Goines est un écrivain qui a vécu à Détroit, qui est né à Détroit, qui a écrit dans les années 70. Donald Goines était un accro à l'héroïne, il vendait de la drogue, il s'est ramassé en prison durant les années 70 à Détroit. Et puis, lui, il s'est mis à écrire, bon, même s'il y avait à peu près pas d'éducation formelle, il s'est mis à écrire des romans, justement, qui se passaient dans son Détroit natal, dans son quartier, avec les personnages que lui avait connus. Souvent, c'était basé un petit peu sur ses propres exploits. Il a écrit finalement 15 romans en 5 ans. Des romans assez courts, très, très percutants, très peu littéraires, mais avec énormément de punch. Et puis, il a écrit ses deux premiers livres en prison. Et puis ensuite, il a écrit les autres le matin surtout, parce que à partir de midi, il commençait à avoir son besoin de se shooter. Et puis, il était toujours héroïnomane. Alors, il écrivait le matin très rapidement ses romans. Et puis, le reste de la journée, il faisait ses trucs de d'accro à l'héroïne. Et puis, finalement, il a été tué par balle en compagnie de sa femme, à l'âge de 36 ans, dans son appartement. On sait toujours pas qui a fait feu sur lui. Alors, toute sa vie et même sa mort ont été à l'image de la littérature, lui, qui écrivait. Il a vendu 5 à 10 millions de copies dans le monde. Et encore aujourd'hui, moi, je dirais que dans les prisons, c'est l'auteur numéro un. À chaque jour, ou à peu près, on me demandait si j'avais des romans de Donald Goines. Le problème, c'est que j'en achetais, mais ils disparaissaient aussi vite que je les achetais. On les piquait, on me les volait. Alors, c'était très difficile de les garder sur les rayons, parce que il était tellement populaire que les gars piquaient ça. Et puis, bon, Dieu sait ce qui se passait, s'il les prêtait à d'autres détenus ou s'il les vendait ou quoi, mais c'était très, très difficile pour nous de garder ça dans la bibliothèque. Il demeure une espèce de héros culte de la génération hip-hop américaine. Tupac Shakur, dans ses, il a déclaré que c'était son espèce de père spirituel et culturel. Ludacris aussi, dans quelques-unes de ses chansons, il fait référence à Donald Goines. Il y a même maintenant, il a sorti un petit peu des cadres du hip-hop et des prisons. Il est étudié par les universités américaines maintenant aussi. Il a été traduit en français. Les Français l'ont découvert. Il y a plusieurs de ses titres dans la série noire. Des titres comme « Justice blanche, misère noire »,« L'accro », Dad est cool, ne mourrez jamais seul. Alors, juste les titres, ça nous donne un peu une idée de la texture, de la musique de ces romans-là. Et puis, moi, j'avoue que je connaissais pas Donald Goines avant de travailler en prison. Donc, quand je disais tantôt que mes échanges entre les prisonniers, ça se faisait c'était de la communication à deux voix. Moi, je leur conseillais des livres, mais eux me disaient « Ouais, mais est-ce que tu as entendu parler de tel auteur, tel auteur, tel auteur? » Puis, dans le cas de Donald Goines, je le connaissais pas. Et puis, j'ai lu à peu près tous ces trucs, puis ça m'a ouvert un monde complètement nouveau. Puis ça, à quelque part, ça m'a rapproché des détenus, parce que ça leur parlait tellement, ces romans-là, que je savais que c'était que de découvrir ça moi-même, ça me permettait de les connaître un petit peu plus à quelque part.
Donald Goines, Ne mourrez jamais seul, 1974. On ne rencontrait pareille négligence que dans le ghetto. Ici, dans la 87e rue, entre Broadway et Amsterdam, les Noirs, les petits blancs et les Latinos étaient enfermés dans leur prison particulière. Certains ne sortiraient jamais de la pauvreté qui les cernait. Les plus vénards parviendraient à la longue à amasser assez d'argent en vendant de la drogue, ou bien approcheraient le fric gagné par leurs femmes pour pouvoir s'en aller. Pourtant, la plupart ne bougeraient pas parce qu'ils avaient peur du monde extérieur. Cet univers, celui des taudis aux clodos et arnaqueurs se foutaient sur la gueule, était le seul qu'ils connaissaient. Ils vivraient et mourraient dans le ghetto, terrifié parce qu'il y avait dehors.
Moi, je pense que la raison pour laquelle Donald Goines est si populaire, c'est que, bon, à cause du style, et puis aussi à cause de l'approche qu'il a de la façon dont il décrit les mondes qu'il crée, ça correspond énormément à la réalité que les détenus ont connue en prison alors qu'ils sont incarcérés maintenant, et leur vie antérieure. Donald Gunn, c'était une approche presque documentaire. Il décrivait les choses telles qu'elles étaient, telles qu'il les a vécues. Lui, il avait aucun désir de faire dans le symbolique des réalités là que parfois on essaie de poésie, si vous voulez, littéraire. Il essaie pas de représenter le ghetto ou la prison comme quelque chose qui serait idéalisé. Lui, il est pas intéressé à ça. Puis je pense que effectivement, c'est les détenus réagissent à ça d'une façon particulièrement intense parce que c'est tout ce qu'ils connaissent eux autres. Malheureusement, moi, d'après ce que j'ai pu voir, la plupart des détenus venaient de milieux très pauvres. Surtout des quartiers noirs, des ghettos noirs de Baltimore. Alors, aux États-Unis, il y a une espèce d'expression, on dit de « from the crib to the prison », du berceau à la prison. C'est comme si les jeunes les enfants qui naissaient, surtout les garçons qui naissent dans ces quartiers-là, la seule et unique voie pour eux, c'est de se ramasser en prison parce que, à cause des conditions de vie, à cause des influences qu'ils ont, c'est presque impossible pour eux de s'en sortir. Et puis, Donald Goins faisait partie de cette réalité-là. Alors, il décrivait le ghetto comme étant un lieu clos, chose qu'ils sont. Parce que moi, j'ai connu des détenus qui m'ont dit qu'ils étaient jamais sortis de Baltimore de leur vie. À peine de leur ghetto, c'est pas de leur bloc. Donc, ils ont connu ça, donc cette espèce de d'univers fermé-là. Puis l'autre univers fermé qu'ils ont connu, c'est celui dans lequel ils évoluent maintenant, soit en prison. Et puis, encore une fois, Donald Gaines, c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il décrivait. De là, l'espèce de connexion très forte entre lui et les détenus. Puis c'est ça, il me disait à quel point Donald Gaines leur parlait. Dans mon rôle de bibliothécaire, à partir de Donald Gaines, j'essayais de leur filer des choses que d'autres auteurs américains ou noirs américains qui avaient des vécus un peu différents, dont le niveau littéraire de leur livre était peut-être un petit peu plus élevé. La bibliothèque est supposée d'ouvrir les horizons des gens qui la visitent. Puis moi, c'est ce que j'essayais de faire. C'est pas évident dans le milieu carcéral, mais c'est ça. Dans l'année que je voulais qu'ils quittent les murs de la prison un peu. Je voulais qu'ils quittent leur vécu aussi. Et puis je sais pas combien de fois qu'il y a des détenus qui sont venus me voir en me remerciant de leur avoir refilé des livres écrits par des auteurs qu'ils n'avaient pas connus, des histoires qui se déroulaient dans des mondes qui leur avaient échappé jusqu'à puis ça leur permettait, ils disaient, eux, de se sauver de leur sort, de s'évader un petit peu, non pas physiquement évidemment, mais au moins mentalement, psychologiquement, ça leur faisait un grand bien, qu'ils me disaient. Et en ce faisant, effectivement, j'ai pu voir que j'avais un impact sur la vie de ces hommes-là, un impact positif, et puis qui venait tout simplement, qui venait de la lecture, donc l'ouverture des horizons de ces gens-là, par la littérature, par les mots, par le livre. Ça fait corné à dire, mais ça marche.
Albert Camus, L'étranger. Au début de ma détention, pourtant, ce qui a été le plus dur, c'est que j'avais des pensées d'homme libre. Par exemple, l'envie me prenait d'être sur une plage et de descendre vers la mer. À imaginer le bruit des premières vagues sous la plante de mes pieds, l'entrée du corps dans l'eau et la délivrance que j'y trouvais, je sentais tout d'un coup combien les murs de ma prison étaient rapprochés. Mais ça dura quelques mois. Ensuite, je n'avais que des pensées de prisonnier. J'attendais la promenade quotidienne que je faisais dans la cour ou la visite de mon avocat. Je m'arrangeais très bien avec le reste de mon temps. J'ai souvent pensé alors que si on m'avait fait vivre dans un tronc d'arbre sec, sans autre occupation que de regarder la fleur du ciel au-dessus de ma tête, je m'y serais peu à peu habitué. J'aurais attendu des passages d'oiseaux, des rencontres de nuages, comme j'attendais ici les curieuses cravates de mon avocat, et comme dans un autre monde, je patientais jusqu'au samedi pour étreindre le corps de Marie. Or, à bien y réfléchir, je n'étais pas dans un arbre sec. Il y avait plus malheureux que moi. C'était d'ailleurs une idée de maman, elle le répétait souvent, qu'on finissait par s'habituer à tout.
Les détenus qui venaient à la bibliothèque, ils venaient pour lire, évidemment, mais c'est des gens donc qui s'intéressaient à la littérature. Certains d'entre eux écrivaient. Ils écrivaient parfois dans les livres de la bibliothèque. Souvent, j'ai vu dans les marges des livres des commentaires. J'ai pris en note quelques-uns de ces commentaires-là, justement, et puis en voici donc un exemple assez frappant. Le livre est « Origin » de Diana Abou-Jaber. Sur la première page du roman, le détenu a écrit en grosses lettres « These motherfucking assholes in here have me so full of hate, when I get out of here, I am going to on a killing spree. » À l'intérieur du roman, il a écrit « This is the worst fucking book I have ever read. Now that I've read it, I want to kill myself. Fuck redemption. If something is too hard to do, it's not worth doing it. »
Il faisait pas qu'écrire dans les marges des livres de la bibliothèque. Plusieurs venaient me voir en me disant qu'effectivement, eux, ils voulaient devenir écrivains, ils avaient des aspirations littéraires. Ils ont appris que moi, j'écrivais aussi, donc ça a ouvert la porte encore plus. Ils venaient me voir pour me demander des conseils, comment trouver un agent, comment des adresses d'éditeurs, des adresses de journaux, de magazines littéraires où ils pourraient envoyer leur manuscrit. Malheureusement, parfois, ils me demandaient de lire leur écrit. Je dis malheureusement parce que ça me mettait toujours dans une position un peu difficile. Comment dirais-je, les écrits des détenus, c'était pas toujours exactement des prix Nobel. Et puis donc de devoir leur faire la critique, il fallait que je sois particulièrement délicat et diplomate parce que bon, je voulais pas leur dire que leur truc c'était merdique parce que on veut pas dire ça à qui que ce soit qui écrit parce qu'eux, ils prenaient ça au sérieux. Mais en même temps, c'est ça, je voulais pas faire casser la gueule par un gars qui allait être un petit peu trop susceptible. Mais bon, donc j'essaie de pas trop encourager ce genre de choses-là. Ce que je sais, c'est que beaucoup de détenus disaient qu'ils voulaient écrire surtout leur mémoire, d'où ils venaient justement, leur passé, leur parcours, ce qu'ils avaient fait pour se ramasser derrière les barreaux, leur vie en prison. Puis il y avait des... Quand je disais tout à l'heure que souvent les écrits sont pas tellement bons, c'est que la plupart de ces gars-là avaient pas été à l'école très longtemps. Ils savaient pas écrire. Ils avaient aucune idée comment structurer une nouvelle ou un récit. Ils avaient pas vraiment un langage particulièrement intéressant non plus. Ils avaient un vécu extraordinaire. Ils avaient le désir brûlant souvent de s'exprimer. Mais étant donné qu'il y avait pas d'éducation, souvent les résultats littéraires comme tels laissaient à désirer. Je me souviens de Sam King. Sam King qui était au COT. Sam, c'est un énorme gars, probablement 6 pieds 6, il devait peser 350 livres, il avait toujours un gros sourire aux lèvres. Et puis, il avait publié un livre, mais je pense qu'il avait publié à compte d'auteur. Et puis, ça s'appelait « The Garden of Eden Code ». Ça se passait, j'ai lu quelques pages, ça se passe dans les rues de Baltimore, mais il y a un côté surréel avec des monstres là-dedans, c'était épouvantable, mais mon Sam King avait toujours 3-4 copies à portée de la main, puis essayait de vendre ça, puis de donner ça aux autres détenus. C'était un très bon vendeur, parce que bon, il poussait sa marchandise au maximum. On peut toujours l'acheter sur Amazon si on veut le lire. Mais encore une fois, il faut pas s'attendre je pense que le prix Pulitzer, c'est pas dans son avenir immédiat.
Zargana, l'oubli, 1988, Birmanie. C'est la nuit. Les rayons de lune claquent. Les étoiles suffoquent et ce malheureux hibou là-bas qui hurle sa peine. Lancé sur ses rails, un vieux train roule vers sa fin, ahannant un dernier soupir. Et moi, jour après jour, de l'aube au crépuscule, de l'aube au crépuscule, jour après jour, j'envoie mes pensées au-delà de ces murs, je rêve d'un rêve à l'infini, d'un voyage sans fin à travers la nuit. Je me tourmente, je me ronge. Celle que j'appelle ne me répond pas. Celui que j'attends ne vient jamais. Si seulement je pouvais m'arrêter de penser, de voir, d'entendre, de rêver, je ne sentirais plus rien.
And he had me, me glad. No more.
Je savais d'emblée, avant de commencer à travailler en prison, que, en tant qu'écrivain, que ce travail-là, dans ce milieu-là, était pour avoir un impact majeur. Parce que comment ne pas être affecté par cette espèce de monde parallèle, cet univers parallèle, peuplé de gens que j'ai jamais fréquenté avant, venant d'endroits que j'ai jamais visités auparavant, avec un langage, avec une façon de voir les choses qui était complètement étrangère à moi, à mes perceptions. Alors je savais que c'était pour avoir un effet particulièrement fort sur mon esprit, sur mon imagination. Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. Avant de commencer à travailler dans la prison, j'ai commencé la rédaction d'un roman. C'est un roman de famille. Je savais à peu près où je m'en allais avec l'histoire. J'avais surtout des personnages. J'avais surtout la dynamique de la famille en tête. Et puis tout d'un coup, la prison a pris le dessus du processus d'imagination. Et puis, un des personnages principaux du roman, qui a été publié l'an passé comme un intrus, un des personnages principaux finalement fait quelque chose. Et puis, il va en prison, ce qui va avoir un impact sur toute la famille, y compris le personnage principal qui est le fils de la personne qui va en prison. Donc, toute la trame de mon roman s'est trouvée chamboulée, enrichie aussi par cet univers que je commençais à connaître. Mon travail, cette réalité-là que je découvrais, m'a nourri. Ça continue de le faire de façon peut-être un peu plus, pas dans la fiction, mais je suis en train de faire ça, écrire un bouquin sur mes expériences dans les prisons, parce que ça m'a tellement frappé. Ça m'a tellement touché d'un point de vue humain, d'un point de vue professionnel aussi. Donc, comme professionnel, comme homme, comme être humain, comme écrivain, ça m'a nourri. Puis j'en ai le cerveau plein. J'ai quitté, on est au mois de mars 2012, j'ai quitté les prisons au mois de septembre 2011. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais ça m'habite toujours. Je rêve encore que je suis dans les prisons avec les détenus que j'ai connus. Parfois, je suis prisonnier moi-même. Parfois, je suis détenu. La plupart du temps, Dieu merci, je ne le suis pas. Je suis bibliothécaire. Souvent, les prisons ont un aspect complètement différent. Sont soit immenses ou alors plus petites. Souvent, j'ai de la difficulté à sortir de la prison quand je suis dans ces rêves-là. Donc une espèce d'angoisse qui me vient de ça. Et puis donc j'ai besoin d'écrire pour garder ça en mémoire, mais pour orchestrer tout ça, pour organiser tout ça dans ma tête, parce que ça m'a tellement modifié ma façon de voir les choses. Ça m'a tellement changé comme personne que je peux pas ne pas m'attaquer à ce projet puis de faire face à ce quotidien extraordinaire que j'ai vécu. Chaque jour était différent, chaque jour était extraordinaire parce que Le lieu était extraordinaire. Encore une fois, surtout pour quelqu'un comme moi, québécois de bonne famille, élevé à Laval, j'avais aucune raison d'être dans ce milieu-là. Encore une fois, je vais garder ça en tête toute ma vie, et puis je sais que ça va me nourrir comme écrivain aussi. Juste la façon dont je vois la vie, juste la façon dont je vois les gens, je pense que je vais toujours avoir cette espèce de bagage. Mes 6 ans de prison vont... je dis ça comme si j'avais été détenu moi-même. Je peux même pas imaginer quel genre d'impact ça pourrait avoir sur un homme, sur un être humain, d'être détenu. Moi, le soir, j'allais chez moi. J'allais rejoindre Adèle, et puis on prenait notre petit verre de vin en mangeant le soir, puis on regardait la télévision, puis la vie était belle. J'étais pas pris là à 24 heures sur 24 pendant 30 ans ou 50 ans. Mais malgré ça, ça a eu un impact extraordinaire sur moi.
Alicia Partnoy, Ruth et la torture, 1975, Argentine. Depuis quelque temps, j'essaye de me souvenir du visage de Ruth. J'arrive à me souvenir de ses grands yeux, de son petit nez quasi inexistant, de la forme de sa bouche. J'arrive à me souvenir de ses cheveux, de la moiteur de sa peau. Quand j'additionne le tout, rien ne va plus. Je ne vois pas le visage de ma fille. 2 mois que je ne l'ai pas revue. Je voudrais être sûre qu'elle est saine et sauve. Je chuchote. « Vaska, tu te souviens du visage de ma fille ?»« Bien sûr, elle est mignonne. » Je me retourne sur mon lit, dans l'espoir que cela mettra un peu d'ordre dans mes pensées. Rien à faire, ça ne marche pas. Bizarre, comme je réussis à me rappeler de ce que nous faisions ensemble, même si je n'y pense pas tout le temps. Mais ce que j'aimerais, c'est voir nettement son visage, être capable de réunir tous les morceaux du puzzle.
Lord, I'll never turn back no more. I found.
Je me suis aperçu après 6 ans que je devais quitter la prison parce que ça commençait à m'affecter de façon particulièrement néfaste, négative. Moi qui avais toujours été respectueux des détenus, avec qui j'avais toujours une bonne relation, une relation de respect, une relation harmonieuse, je me suis aperçu que le monde, les détenus, le monde de la prison méritait. Chaque matin, les derniers mois, ça me tentait moins d'aller en prison. Disons que le côté un peu extraordinaire de l'affaire, c'était finalement effiloché. Et puis, il y a eu un événement où je me suis engueulé vertement avec un détenu. Habituellement, s'il y avait des petites frictions, moi, j'étais toujours très diplomate. J'essayais toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de friction entre moi et les détenus. Et puis, cette fois-là, je me suis engueulé vertement avec le gars. Bon, ça n'a jamais été assez... Je me suis pas senti en danger comme tel. C'était pas vraiment le cas, mais je me suis aperçu que j'ai vu beaucoup de gens qui ont travaillé à prison longtemps. Ça les affectait de façon très négative aussi. Et puis, ils devenaient agressifs, ils devenaient condescendants, ils devenaient... Tout de la prison et des détenus étaient négatifs. Puis, je voulais pas me rendre là. Je voulais pas devenir... ce genre de personne-là.
Ahmad Chamlou, Nocturne, 1959, Iran. Si c'est en vain que la nuit est belle, pourquoi est-elle belle? Pour qui est-elle belle? La nuit et le flot des étoiles qui s'écoulent, froid. Les pleureuses aux longs cheveux sur la rive, le chant déchirant des crapauds, lamentation sans fin qui ravive les souvenirs. Alors que chaque aube est percée par le cœur de 12 balles de fusil.
Le livre que je vais écrire sur mes expériences en prison, pendant les 6 années que j'ai passées là-bas, j'ai pris des notes. Sans ça, j'ai des cahiers et des cahiers noircis, une espèce de journal de bord que je gardais à chaque jour. J'écrivais alors durant la journée quand j'étais là ou le soir à la maison. Alors je me retrouve avec énormément de matériel, des impressions, des scènes, des conversations. Le défi maintenant, c'est pour moi de faire quelque chose de cohérent avec ça, de raconter une histoire aussi. Je veux pas bombarder un peut-être lecteur avec un paquet d'anecdotes qui sont pas vraiment reliées. Alors, je suis maintenant dans la partie de je sais exactement ce que je vais dire, mais je sais pas comment je vais le dire. Alors, je sais pas exactement encore comment je vais orchestrer cette espèce de symphonie de carcérale que je veux communiquer. Alors, mais j'ai l'impression que quand je vais avoir trouvé la structure, ça va se faire relativement bien, relativement facilement. C'est jamais facile l'écriture, mais une fois que j'aurai trouvé la voie, encore une fois la structure, je pense que ça va bien se faire. Mais c'est ça, il y a tellement de choses à tellement de niveaux, niveau culturel, niveau personnel, des choses qu'on m'a rapportées, des choses que les détenus ont vécues, des choses que j'ai vécues par rapport à ça. J'ai une espèce de bouillabaisse. Mes ingrédients sont tout là, mais je ne sais pas encore quelle est la recette. Et j'ai hâte de la trouver parce que ça me stresse un peu de pas savoir où je m'en vais avec toutes ces histoires que je veux raconter. Mais c'est ça. Et je vais y arriver un jour, je suis sûr. Même si j'ai quitté la prison ne va pas me quitter, pour utiliser une espèce de phrase un petit peu cliché. Je sais que ça va être avec moi, dans ma tête, puis encore une fois cliché, dans mon cœur, toujours, parce que ça a été tellement une expérience particulièrement forte et intéressante et fascinante. Et ça va rester avec moi pour toujours. Lors de cette première journée au COT, un jeune type vient me voir. Il arbore un afro et une vilaine cicatrice lui serpente la longueur de l'avant-bras gauche. Nous nous mettons à parler livres et littérature, ses auteurs favoris et les miens. Je mentionne William Faulkner et il n'a jamais lu Faulkner. Il ne connaît pas non plus Kafka et il n'a lu qu'une nouvelle d'Ernest Hemingway, Les Tueurs, ce qui m'apparaît un tantinet ironique vu le contexte dans lequel nous sommes. Il me dit qu'il aimerait lire d'autres nouvelles d'Hemingway et qu'il jetterait un œil du côté de Faulkner et de Kafka. Je lui refile des copies de leurs livres. Ça augure bien tout ça, moi qui ne savais pas à quoi m'attendre avant de mettre les pieds derrière les murs de ce pénitencier. Peut-être que la bibliothèque du COT va devenir une sorte de salon littéraire. Si les choses n'ont pas vraiment pris cette tournure, j'ai souvent joué le rôle de consigliere auprès des détenus en matière de littérature. Un d'entre eux, un jour, se pointe et me demande si nous avons des « new books that are good ». Je lui donne « Sweet and Vicious » de David Schickler, que je viens tout juste d'acheter, un recueil de nouvelles percutant à souhait. « It's very good ». Un autre détenu veut un roman de vampire ou de loup-garou. « J'adore ce genre de livre, man. » Je lui suggère « Le démon de Blue Ball » de Tristan Egolf pour qu'ainsi il lise quelque chose d'un peu moins trash que les trucs de vampire habituels. Mais après avoir parcouru une page ou deux du roman, il me le redonne et se tourne plutôt vers Laurel K. Hamilton, une chef de file américaine du genre vampire, avec des titres comme « Le cadavre rieur » et « Le squelette sanglant ». On ne peut pas toutes les gagner, comme disent les sportifs. Un autre jour, un très jeune détenu s'amène. Je ne l'avais encore jamais vu à la bibliothèque. Moitié ado, moitié gangster, il porte un t-shirt sans manches qui révèle l'énorme cicatrice qui lui barre l'épaule. « Avez-vous des livres drôles ?» qu'il me demande. « Des livres drôles ? Tu veux dire un livre de Bill Cosby ou... » « Non, man, je veux dire des romans drôles. » Il ne me donne pas le temps de répondre et dit « Avez-vous des histoires de meurtriers ?» Je le reluque et dit « De la comédie au meurtre, hein ?» Il me fait un petit sourire en coin. Il a de la chance, personne encore n'avait remarqué la seule et unique copie d'un roman de Donald Goines dans la pile des retours sur le comptoir du prêt. Je le lui donne en disant « Dis ça, mon gars, you're gonna like it. »
C'était Une bibliothèque en prison, documentaire réalisé par Silvano Santini. Dans l'ordre, on lut Jean Bonnin, Nathalie Etier, Frédéric Julien et France Mongeau. And he had me, me glad no more.